Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'hypophosphatémie liée à l'X ou XLH. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Delphine Chambol, qui est une patiente atteinte d'XLH et qui est également membre de l'association de patients RVRH-XLH, l'association pour les personnes atteintes de rachitisme vitamino-résistant hypophosphatémique. Madame Chambol, bonjour.
Bonjour.
Madame Chambol, ma première question est très simple, on va commencer par le début. Quand et comment est survenue votre maladie ?
En fait, on s'est aperçu, enfin mes parents se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas par la déformation des membres inférieurs, donc les jambes qui sont ce qu'on appelle les jambes arquées communément. Et donc j'avais une forte déformation au niveau des jambes. Et ça a dû commencer en général, c'est à l'âge de la marche. Donc, quand j'ai commencé à marcher, mes jambes se sont déformées. Donc, en fait, c'est un médecin généraliste qui, lors d'une consultation pour quelque chose de tout à fait banal, évidemment, a remarqué cette déformation des jambes et a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il a identifié la maladie, ce qui, je pense, était à l'époque assez peu commun. Et donc, je devais avoir 18 mois. Donc, on ne peut pas dire que j'ai été diagnostiquée si tard par rapport à l'époque. Mais après, c'est autre chose concernant le traitement qu'il a fallu trouver et adapter.
La prise en charge, dans votre cas, elle a eu lieu assez tard. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors, en fait, c'est une maladie qui était quand même peu connue et surtout connue de spécialistes. Et donc, moi, je suis née en 1972 et c'est à peu près le moment où est apparu un traitement efficace. Mais moi, je ne l'ai eu qu'à l'âge de 12 ans. Pourtant, j'étais bien suivie à l'hôpital, mais pas par des personnes spécialistes de la maladie. Et donc, j'ai eu toutes sortes de traitements à base de vitamine D qui naviguaient autour de la vitamine D et qui, en fait, on sait, ne sont pas efficaces puisque, justement, la maladie est résistante à la vitamine D. Et ça a été comme ça jusqu'à l'âge de 12 ans où là, j'ai pu bénéficier du traitement qui est toujours utilisé actuellement, c'est-à-dire du phosphore et une vitamine D recombinée que notre organisme est capable de métaboliser. Voilà, donc en fait, il y a eu ce qu'on appelle une errance, alors pas une errance diagnostique, mais en tout cas, plusieurs années comme ça où je n'ai pas reçu les médicaments qu'il fallait. Et donc, j'ai eu cette déformation des jambes pendant donc jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai donc eu la chance de bénéficier du nouveau traitement donc de phosphore et vitamine D adapté à l'âge de 12 ans et j'ai eu la chance que ça fonctionne bien, hein, c'est-à-dire que ça a pu corriger, on va dire peut-être pas complètement, mais beaucoup, on va dire, ça a pu corriger les déformations donc au niveau des jambes.
Et au cours de ces années, quel a été le vécu de votre maladie ?
Pendant l'enfance et au moment où j'avais donc ces déformations qui étaient vraiment marquées, hein, ça veut dire que ce sont les jambes arquées un peu à la manière du cow-boy des westerns, avec en fait une distance très importante entre les deux genoux, même si on serre les jambes. Moi, ça a beaucoup marqué mon enfance. C'est-à-dire, ce sont des moqueries des autres enfants, c'est une gêne dans la mobilité, donc pour le sport, c'est compliqué. Donc, c'est quand même des déformations physiques qui ne sont pas faciles à vivre. Après, évidemment, ça dépend de la personnalité de chacun. Et ça a été un vrai soulagement de voir que ces déformations diminuaient sur quelques années, hein, avant la fin de la croissance, puisque... Ça a été donc entre 12 ans et 18 ans que ces déformations ont disparu. Après la prise en charge, donc vers l'âge de 12 ans, donc jusqu'à la fin de ma croissance, après il y a eu une période où j'ai complètement oublié la maladie et je ne me suis plus soignée. Alors à l'époque, on a dit que bon, à la fin de la croissance, on ne savait pas trop si c'était important ou pas de continuer les médicaments. Aujourd'hui, les médecins pensent que c'est plutôt mieux de continuer le traitement. Mais moi, ça m'a permis d'oublier pendant quelques années. Ce n'était pas désagréable. Mais ensuite, vers l'âge de, je dirais, peut-être déjà 28 ans, les douleurs ont commencé à s'installer. Et donc, ce sont des douleurs musculaires, des douleurs un peu partout, bas du dos, les jambes, etc. Et puis aussi, les problèmes dentaires qui sont très importants dans cette maladie. Et c'est comme ça que j'ai recontacté l'hôpital et une nouvelle équipe à Paris, puisque j'habitais à Paris. Et j'ai pu être suivie à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, à une époque très importante qui est celle de la grossesse. Et ce que je peux dire, c'est que finalement, je fais partie d'une des premières générations qui aura été suivie presque tout au long de la vie, et aussi à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, c'est vraiment très important parce que malheureusement, les adultes ont beaucoup de douleurs, ont des problèmes parfois de mobilité plus ou moins importants, toujours des problèmes dentaires et d'autres qui s'ajoutent. Cela dépend des personnes.
Alors, vous l'avez évoqué en parlant de votre grossesse. En préparant cet entretien, vous nous avez indiqué que votre fils était également atteint d'XLH. Comment est-ce que ça s'est passé pour lui ?
Alors, donc déjà, moi, je savais que si j'avais un enfant, il y avait une possibilité qu'il soit atteint de la maladie. Et j'en avais discuté avec les médecins. Et donc, étant donné que je suis une femme et que c'est lié à l'X, ça veut dire qu'il y a une possibilité sur deux pour que l'enfant soit atteint. Eh bien, voilà, mon fils est atteint de la maladie. Donc, ce qui est différent quand soi-même on est atteint de la maladie, c'est que l'enfant, le bébé même, est tout de suite pris en charge et surveillé. Et en fait, ce sont les premiers bilans sanguins qui vont indiquer si l'enfant est atteint ou non de la maladie, tout simplement avec le niveau du phosphore. Et donc, j'ai appris que mon fils était atteint de la maladie très vite. J'ai su quand il avait moins de 3 mois que c'était sûr qu'il était atteint de la même maladie que moi. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile de se dire que son enfant est atteint de la même maladie qu'on lui a transmis. C'est quand même un chemin à faire. Et ce qui est important, ce qui a été important pour moi d'apprendre, c'était de distinguer ma maladie de la sienne. C'est-à-dire de se dire qu'il n'aura pas forcément la même histoire et que comme aujourd'hui, la maladie est bien mieux connue, les médecins la connaissent beaucoup mieux. On a de la chance d'avoir un centre de référence de cette maladie avec une équipe qui est formidable. Et du coup, les enfants aujourd'hui sont beaucoup mieux soignés, beaucoup mieux suivis. Donc voilà, donc ça s'est passé. Bah, sur le coup, ce n'est pas facile d'accepter cette nouvelle. Mais on est les parents et les enfants, nous sommes très bien accompagnés.
Alors Madame Chambol, on l'a précisé en introduction, vous êtes membre de l'association de patients RVRH XLH qui a été créée en 2010 et vous avez même repris récemment un rôle actif au sein du conseil scientifique de cette association. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette démarche et quels sont les objectifs de l'association ?
Alors, cette association, elle est née dans un contexte très particulier en 2010, lorsque un des deux médicaments qui sont vraiment nécessaires à la prise en charge de cette maladie a été retiré de la vente. Du coup, c'est cet événement qui a fait que les familles se sont regroupées avec l'aide de médecins du centre de référence pour se faire connaître et puis pour pouvoir peser auprès des institutions afin de pouvoir récupérer en fait l'usage de ce médicament. Et ça a marché. Donc, il y a eu une mobilisation vraiment importante. Et c'est ce qui nous a en fait réunis, cet événement. Et l'association, aujourd'hui, continue. Donc, ça a été une belle aventure parce que je pense que c'est comme ça pour beaucoup de maladies rares. Les patients ont tendance à vivre cette maladie qui est donc peu répandue de manière assez solitaire. Et c'est toujours assez émouvant de rencontrer une autre personne qui a cette même maladie rare. Donc, l'objectif de l'association, c'est déjà de faire connaître la maladie, d'informer sur cette maladie, de pouvoir guider les patients, répondre aux questions et je dirais aussi faire le lien avec le centre de référence parce qu'il y a beaucoup de patients qui parfois sont suivis par des médecins qui ne connaissent pas très bien la maladie, ce qui est normal. Et donc, c'est bien pour ça qu'en France, on a la chance d'avoir cette organisation en centre de référence et en centre de compétences qui permet aux malades de s'adresser à des médecins vraiment spécialistes de ces maladies. Donc, je peux dire que l'association fait aussi le lien avec le centre de référence et travaille en étroite collaboration avec les médecins Nous organisons des ateliers d'information. Je pense que le but, c'est vraiment d'éviter ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Mais c'est aussi que les patients, les malades, se sentent moins seuls et puissent avoir des réponses à leurs questions. Parce que beaucoup d'entre nous, avant cette association, nous manquions d'informations. Et puis voilà, on se sentait vraiment seuls à vivre cette maladie, chacun dans son coin.
On arrive au terme de notre entretien, Madame Chambol. Alors, si vous aviez un message à faire passer ou à retenir, quel serait-il ?
Alors, je pense que j'ai deux messages. Je voudrais redire que, bien sûr, c'est une maladie qui n'est pas facile à vivre, mais aucune maladie n'est facile à vivre. C'est une maladie chronique, donc c'est une maladie qui nous suit tout au long de la vie. Et cette maladie touche beaucoup de parties du corps. En tout cas, il y a des répercussions sur beaucoup d'éléments, en particulier, je disais, donc le squelette, mais aussi les dents, parfois des déformations au niveau du crâne, etc. Mais il faut se dire, et surtout par exemple pour les parents qui se posent la question d'avoir un enfant ou pas, que voilà, cette maladie est bien mieux prise en charge. On la connaît de mieux en mieux et c'est vraiment très rassurant et on est très bien accompagné. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et après, j'ai un second message à faire passer aux médecins en général, parce que ce n'est pas toujours facile quand il y a une urgence ou quand nous ne sommes pas près du centre de référence de rencontrer d'autres médecins. Il se peut que dans certaines situations, le malade atteint d'une maladie rare en sache un peu plus sur sa maladie ou en tout cas en sache plus sur certains aspects de sa maladie qu'un médecin qui n'est pas spécialiste de cette maladie. Et donc, parfois, nous sommes dans des situations où nous rencontrons des médecins pour nous faire soigner qui ne sont pas spécialistes de cette maladie et nous avons besoin d'être écoutés.
Eh bien, merci infiniment, Madame Chambol, pour votre témoignage qui nous a permis de mieux connaître l'hypophosphatémie VIALIX. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram Rare à l'écoute ou notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à l'XLH. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite.